Cet après-midi, on va repartir directement en atelier. Donc, même chose que ce matin, vous allez avoir trois ateliers, on va les rappeler maintenant, répartis sur les mêmes endroits, les mêmes zones que tout à l'heure, donc A, B, C. Une demi-heure de discussion, un temps pour que les rapporteurs puissent prendre du temps pour un peu structurer leurs idées, et ensuite 3 minutes pour se rapporter. Donc, ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est qu'on va faire l'atelier, le temps pour que les rapporteurs prennent des notes, on se fera la pause et ensuite on va demander aux rapporteurs de donner la nouvelle. Ensuite, on va avoir un temps, on va essayer de prendre certains éléments qui ont été dits, qui ont été ramenés par vos groupes. On va essayer de se dire avec quoi potentiellement vous repartez d'ici. On va parler de deux, trois petites choses. Et puis, il y aura un temps de partage et de prière à la fin. L'objectif étant. Alors, pour répondre à tout à l'heure, moi, j'ai un train. Je vous racontais ma vie, mais c'est pas grave. C'est moi qui suis devant. Vous n'avez pas le choix. J'ai un train à 5h42. Je vais partir à 5h moins 10 pour ne pas louper le truc. Donc, qui veut dire qu'à 5h moins 10, soit on a fini, soit vous finissez vous-même, c'est pas grave. Mais s'il y a d'autres choses qui se font après que je ne suis pas là, en fait, c'est pas grave. L'enjeu n'est pas tant que moi je sois là plus, c'est plutôt avec quoi est-ce que vous repartez. Donc, pas trop de pression par rapport à ça. C'est juste pour vous dire, si à un moment où vous ne me voyez plus, c'est pas que je vous aime pas, c'est que la SNCF m'aime plus. Et voilà. Et donc, deux, trois choses. Donc, un, je vous rappelle les trois sujets. On va faire comme tout à l'heure. Vous allez voir les trois sujets, vous vous répartissez comme vous le souhaitez. Pour les personnes qui sont en ligne, donc normalement vous avez au moins un sujet qu'il vous reste des sujets que vous avez parlé ce matin. Donc vous allez en choisir un. On va faire la même chose que tout à l'heure. Vous allez en parler tout à l'heure. Vous allez en parler ensemble et puis après nous faire un rapport. Est-ce que tout va bien pour tout le monde? OK. Donc rappel des trois sujets. Premier sujet. En voulant aider les autres, à quel moment ou comment dire non à aux autres sans avoir le sentiment de culpabilité. Et c'est Chris avec le port. Ah, là. Deuxième sujet. Comment faire pour ne pas avoir eu deux ateliers? Je ne sais pas pourquoi. Donc, ils sont restés là-bas, là où il y avait des lits pour la sieste, donc c'est inquiétant. Il y a une espèce d'utilisation des images, c'est intéressant. Donc, ce qu'on va faire. Donc, on va se prendre maintenant 20 minutes. Pardon, désolé. Vous m'entendez? Ça va, Henri? OK.
Oui.
Deux, trois choses pour voir ce qui se passe parfois dans les groupes qui est assez intéressant. Donc, en début, je vous disais, donc il y a un moment de discussion en groupe, et puis après, la personne qui fera le rapport devra prendre du temps pour elle pour pouvoir écrire le rapport. Et en fait, je suis allé voir tous les groupes, non, non, c'est bon, c'est fait, on l'a fait tous ensemble, et fait des trucs, ok, on est un groupe, on est bon, on va arriver ensemble, j'ai dit, d'accord, ok, je pousse pas plus, ok, donc intéressant. J'espère que ça vous aura été utile. Je sais, hein, cette frustration c'est juste une demi-heure. Ça va très vite. Plein de choses à voir. Mais il y a certains. En réalité, c'est des sujets où on se donne 4 heures et ça dure 4 heures. On se donne 20 minutes, ça dure 20 minutes. L'enjeu, plutôt, ce que vous en tirez de ce temps-là et d'essayer de faire le plus impactant possible, mais après, ce que vous allez en faire par la suite. Donc, super, super boulot pour tous. C'est assez riche de voir vos processus au sein des groupes, quoi. Après, il y a le truc assez intéressant, mais ça c'est très chrétien, vous êtes quasiment tous d'accord. Il n'y a pas eu de conflit. Moi, j'essaie d'être attentif parce que de temps en temps, il peut y avoir un peu de tension. Le truc. Genre là, j'ai passé toute la journée. Bon, là, tout va bien. Ok, je ne sais pas ce que je fais là. Mais en tout cas, bien, les processus se sont très bien passés. Donc, si ça vous va, on se prend 20 minutes de pause. Donc, moins 10, on se dit jusqu'à 3h20. 3h20, on se retrouve. Les personnes font les rapports par rapport à leur groupe. Et après, on va essayer de faire un petit peu un survol de certains aspects qui sont ressortis durant les groupes. Je vous expliquerai deux, trois choses. Il y a eu un conflit?
Oui.
Ah, voilà!
3h20, ça fait pas 20 minutes, ça fait 30 minutes.
Alors, en fait, c'est parce que je compte depuis moins 5. Bon, tant pis. OK, 3h10. Allez, là, ça ne fallait pas me faire appeler. OK, alors oui, non, tout à fait. On s'est dit 3h15. Allez, ça marche. C'est bon pour tout le monde? OK. Donc, on va se lancer. Donc, même chose que tout à l'heure. La personne va faire le rapport de ce qui a été échangé en 3 minutes, chrono. Dans l'idée de faire dans un petit quart d'heure, et puis après, on va essayer de faire un récapitulatif de certaines choses qui ont été changées, de creuser sur certains points. En attendant, Colette, on va commencer par un groupe ici, du coup. Est-ce que le groupe. C'est moi? C'est toi. D'accord. Ah! Alors,
Bien
ça,
joué.
c'est comme les cours, le truc, on en est là, quoi. Faut qu'on s'échange des messages entre là et là par WhatsApp. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Non, la collègue, du sérieux. Ok, donc on commence par le groupe A, si ça va. Groupe. Ok, super. Ah oui.
Et du coup, moi, je serais un peu brève. J'espère que je pourrais mieux faire comprendre. Donc, après notre échange, on a retenu qu'il y a.
C'est pour un peu mon sujet. Ça va bien.
Oui, ça va du moins sans le sentiment de culpabilité. Donc, on a retenu quand même deux points essentiels. C'est qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles, en fait, on rend service. Notamment, en fait, avec le côté culturel, nous, on a toujours appris, en fait, qu'il est bon d'aider les autres, qu'il faut être serviable par les croyances et surtout aussi par rapport aux besoins de reconnaissance. Donc, certaines personnes, en fait, elles rendent service juste, en fait, pour. Qu'est-ce qu'on avait pris? Non, c'est vrai. Juste pour plaire aux autres, en fait, pour se dire, pour que les autres puissent dire, ben, elle est notre.
Donc, tu dois pouvoir augmenter le volume là où tu étais,
Ouais, mais
dans le paramètre.
ouais.
En bas. Ah, on va aussi pouvoir augmenter le niveau.
Ouais.
Ah non, il est déjà là.
Oui, c'est bien, ouais.
Je vais te demander de se rapprocher du micro.
oui, c'est ça, parce qu'on n'entend pas.
Donc, du coup, je reprends l'idée qu'on avait retenu, en fait, deux points importants. Donc, à savoir qu'on rend service, en fait, pour plusieurs raisons. Donc, le côté culturel, les croyances et le besoin de reconnaissance. Culturel, pourquoi? Parce qu'on nous a toujours appris à être serviable, à aider les autres. Et aussi, on avait noté que pour le besoin de reconnaissance, c'est surtout par rapport au fait qu'on a envie de renvoyer une image positive des autres, être la personne la plus, on dira pas la plus gentille, mais celle qui dira toujours oui. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Oui, le regard des autres. Ah voilà, et on veut toujours, en fait, se dire qu'est-ce que les gens vont penser de moi, en fait. On se fait des suppositions ou bien on anticipe. Et on a vu aussi qu'en faisant ça, ben, parfois, en fait, on dépasse nos limites sans pouvoir dire non. Et du coup, il faut savoir s'écouter soi-même et savoir doser. On avait vu aussi que en ayant ce comportement-là, donc ça renvoie aussi au triangle de. Oui. Parce qu'en voulant toujours aider, ben on peut se retrouver soit dans la position de sauveur, de victime, et l'autre c'est et persécuteur. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Voilà, le deuxième point, on a vu qu'il n'est pas. Il y a 3 minutes. Okay. Donc, l'autre point, c'est qu'on a vu qu'il n'est pas forcément bon de tout le temps aider, parce qu'il y a ceux aussi en fait qui abusent des autres, en fait. Ceux qui n'ont pas de gêne à demander de l'aide. Et on a vu aussi que ça ne fait pas grandir l'autre. Donc, on a pris un exemple où Nous ne sommes pas dus, en fait. Parfois, il y a des gens qui sont dans des situations, en fait, assez compliquées. Quelqu'un qui demande, en fait, à emprunter de l'argent, alors qu'elle a une mauvaise gestion, en fait, de ses finances. Donc, nous, en donnant, en fait, ça ne l'aide pas. Et on a vu aussi, hein, que nous ne sommes pas responsables, en fait, de la situation de l'autre. C'est-à-dire que... Comment on avait dit ça? Que si la personne a un problème... C'est vrai que ça dépend d'elle, mais nous, en fait, on n'a pas culpabilisé, en fait, pour ce problème-là. On peut aider, mais en fonction de ses capacités. Voilà, c'est tout ce qu'on a pu évoquer. Si je veux ça.
Groupe B, du coup.
Alors nous, la question, c'était comment faire pour ne pas avoir le syndrome du sauveur. Donc effectivement, dans notre profession, dans notre vie personnelle, mais aussi vis-à-vis des autres, du regard qu'ils portent sur nous. Par rapport à notre profession et vie personnelle, dans notre métier, c'est difficile parfois d'avoir la limite. Et on a pris quelques exemples où, par exemple, si on a quelqu'un qui fait un malaise dans la rue, en tant que soignant, ben, on se dit qu'on se doit d'intervenir alors qu'on travaille pas. Et une réponse qui va être adaptée, c'est que si on est les premiers sur les lieux, ben, forcément, c'est quand même adapté de l'aider. À l'inverse, si la personne elle est déjà en PLS, qu'elle va bien et que les secours ont été appelés, ben, ouais, il faut savoir déléguer et dire ben là c'est bon, je ne suis pas le sauveur qui va aider cette personne. Donc c'était les limites à trouver par rapport à ça, d'avoir une réponse adaptée et à l'inverse de ne pas tomber aussi dans le piège de vouloir dire non et de vouloir mettre des limites et de dire ah, on m'appelle, mais non, mais moi je travaille pas, hein, donc je m'en occupe pas. Voilà, il y avait ce juste milieu-là. On a repris aussi par rapport aux autres qui nous mettent dans cette position de sauveur. On a rappelé l'exemple de Marthe qui a appelé Jésus en tant que sauveur. Et Jésus, qui est le sauveur, lui, a pourtant mis des limites. Il a dit non, là tu as tort. Il a remis à sa place. Et donc, on pourrait prendre aussi l'exemple de Jésus dans ces situations-là, de remettre l'autre personne, de faire prendre conscience à la personne qu'on n'est pas le sauveur, qu'on ne peut pas répondre à certaines sollicitations, à certaines demandes. Ensuite, par rapport, on s'est donné un autre exemple par rapport aux apôtres qui faisaient des miracles, mais Paul disait tout le temps, mais c'est Dieu qui guérit. C'est vrai qu'ils ont fait des guérisons, mais sont toujours souvenus que c'est Dieu qui guérit. Et à l'inverse, il faut pas tomber aussi dans cette fausse humilité de dire ah non mais moi j'ai rien fait. Donc apprendre aussi à dire merci, merci et reconnaître nos dons. Et à la fin, la gloire et le bouquet appartiennent à Dieu. Donc là, en conclusion, c'est vrai que l'essentiel, c'est de remettre à Dieu chaque situation, de garder en tête que le résultat ne nous appartient pas, mais il appartient à Dieu. Encore un exemple, si on propose une thérapeutique, par exemple un médicament, si le patient ne le prend pas, ben, il ne va pas forcément être guéri et ce n'est pas nous non plus qui guérissons le patient. Donc, c'est important de mettre la responsabilité du patient, de rester humble et d'avoir de l'humilité dans nos soins, de savoir nos limites et de savoir que c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu seul qui guérit, mais reconnaître quand même qu'on a des dons et être reconnaissant de ces dons. Et donc, rappelons-nous de notre identité en Christ et apprendre à poser des limites saines. Voilà.
Groupe C, groupe du pont.
Alors nous, dans notre groupe, la question c'était quels sont les signes précoces évocateurs d'une bascule de la vocation vers le sacrifice? Alors, de nos échanges, on a dit qu'il fallait autant que possible être sensible aux signes d'alerte de personnes de notre entourage, de personnes de confiance, de préférence, qu'il fallait être à l'écoute de signes d'alerte sur notre santé physique, par exemple des troubles du sommeil, ou d'autres problèmes de santé musculaire, cardiaque, autres, qui pouvaient être aussi évocateurs d'une éventuelle bascule, qu'il fallait faire attention également si on commençait à faire des efforts permanents pour faire des choses qu'on faisait plutôt facilement par le passé, que si on avait également un sentiment d'isolement, par exemple par manque de communication ou d'échange avec d'autres soignants, d'autres collègues, ça pourrait également être un signe précoce, que la perte de l'estime de soi, ça, c'était également un signe d'alerte, la perte du sens également de son activité de soignant, donc d'autres groupes l'ont évoqué juste avant moi. Nous avons également insisté sur le fait qu'être conscient justement de ses limites et savoir dire non à certaines tâches pouvait nous aider à garder notre bonne santé. Nous avons conclu en disant que il fallait que nous gardions à l'esprit, comme la Bible nous dit, qu'il fallait aimer notre prochain comme nous-mêmes et prier régulièrement pour restaurer pardon, l'estime que nous avons de nous-mêmes. Voilà.
Non. Le groupe en ligne, le groupe international en ligne.
Oui.
Qui nous fait le rapport alors?
Alors, c'est encore moi. Voilà. Alors, la question, c'était comment rester humble quand on nous met constamment en position de sauveur? Alors, ne pas s'attribuer l'honneur dû à Jésus, parce qu'on soigne et c'est Dieu qui guérit, ça a déjà été dit, hein. Il faut rester conscient de nos limites. Ce qui nous évite de tomber dans le piège de l'orgueil et savoir se remettre en question. Cultiver une communion étroite avec Dieu nous préserve de l'orgueil et nous permet de l'honorer. Et on a pensé à ce verset de Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Voilà, c'est court.
Ah bah, Elisabeth!
Voilà, c'est plus court que la dernière fois.
Et on n'a pas dépassé les 3 minutes, hein.
Ok, ok.
Voilà.
Merci à tous. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je vais essayer de reprendre juste quelques éléments clés. Alors, c'est intéressant, vous avez pas mal réagi sur le triangle de Cartman. À plusieurs moments, c'est revenu sur le côté... sauveur, persécuteur, victime. Il y a... Ok, plusieurs choses. Il y a un élément qui est intéressant. J'avais une discussion avec une personne et on essayait de se poser la question du est-ce qu'on donne vraiment pour rien? Est-ce qu'il est possible de donner sans qu'il y ait une notion d'ego derrière? En fait, dans le triangle de Cartman, en l'occurrence, l'un des points clés qui explique cette posture-là, c'est justement cette notion d'ego. Soit parce que je me sens blessé et que mon ego est blessé et que je me mets en victime, soit parce que pour avoir une image bonne des autres, je me mets en sauveur, ou soit parce que je considère que les autres ne font pas leur boulot et que par rapport à moi, du coup, je me mets en persécuteur. Mais en fait, c'est toujours une question d'ego. C'est toujours du comment moi, je réussis à protéger qui je suis ou l'identité que je veux avoir. Et donc, il y avait cette question du est-ce qu'il est possible de donner sans avoir cet enjeu d'ego? Et ce matin, Johan disait, en fait, si vous ne faites pas les choses par amour, limite, ne les faites pas. Et en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que la différence entre est-ce qu'on fait les choses par amour ou est-ce qu'on fait les choses pour l'amour? Est-ce qu'on fait les choses pour obtenir l'amour et le regard des gens ou est-ce qu'on le fait simplement par amour?
Et le fait de pouvoir potentiellement enlever cette notion d'ego peut aider à voir les choses de manière très différente. Mais c'est très difficile, en fait, de ne pas mettre son ego au milieu de tout ça. Et donc, dans cette sensation du ce qui a été dit récemment sur qu'est-ce qu'on fait, comment rester humble lorsqu'on est mis dans une posture de sauveur. Et vous voyez comment tiens, on est pleinement dans cette notion d'ego, quoi. Et j'ai eu une conversation il n'y a pas longtemps avec l'un de mes filleuls, qui est très intelligent, très malin, enfin, qui a des très bonnes notes, etc. Et puis là, il fait un test. Et dans ce test, il ne finit pas premier. Il est habitué depuis très longtemps à être le premier régulièrement. Et il m'explique à la fin, on a une relation assez intéressante et très honnête. Et donc, il me dit, j'ai fini cet examen, j'étais hyper frustré, j'avais l'impression d'avoir mal fait, je ne comprenais pas. Et puis, en fait, en discutant après, c'est juste que je me suis rendu compte que c'est juste que je n'avais pas fini premier. J'avais fini troisième au lieu d'être premier, quoi. Et c'était pour lui hyper désagréable. C'est-à-dire, ah tiens, c'est marrant quand même. Comment l'identité s'est construite sur le fait d'être premier ou d'être dans cette capacité à pouvoir faire des choses, d'avoir un impact, que des gens me reconnaissent dans ce truc, et que quand je n'ai plus ça, limite, je ne sais plus qui je suis. Et parfois, cette notion de sauveur, c'est un peu ça, quoi. C'est que si les gens ont dans leur regard vis-à-vis de vous ce regard du oh, et ça, c'est génial, mieux, vous avez sauvé une vie, quoi. Et les gens viennent vous voir en disant, vous êtes extraordinaire, quoi. Vraiment. Évidemment que l'ego fait ah! Et puis on peut dire, non, mais je suis chrétien, c'est Dieu. Mais, ouais. Ah, ouais. Mais malgré tout, il y a une part. Et donc, c'est difficile, en fait, de tenir cet ego à son juste endroit pour justement garder cette humilité. Mais c'est un enjeu hyper fort. Il y avait deux, trois choses que je voulais aussi rajouter à ça. Je reviendrai assez là-dessus. Juste vous montrer deux, trois choses. Première chose. Ah oui, c'est vrai que j'ai plus le. Je le montre à moi. Et... Ah oui, c'est vrai. Ah, alors, il faut que je te redemande. Non, non, redonne-moi. Ah, je crois que je l'ai. Je crois que c'est. Rejoindre. Redis-moi ton code secret si tu peux.
394 922.
Ça, c'est le code de ta carte bancaire. 102 353. Ok. Ah, c'est bon.
Ma femme travaille dans l'industrie pharmaceutique. C'est riche.
Ah, je suis pas sur Zoom là. Je suis pas encore un... Attends.
C'est bon. On va présenter. Puis ouais, t'arrives à les deux points. Là, je suis en mode en jeu présentateur sur Zoom.
Ouais, donc vous voyez mon écran, c'est ça? Ah, pardon, j'ai pas pris mon écran. Pardon. Les voix. Ça. Ah, c'est bon?
C'est bon.
Ok, c'est un texte dont tu as parlé, Hervé, juste là. Ok. Il y a quelques semaines, j'ai pris une session, je ne sais pas jusqu'où. Quand je fais parfois du coaching, et je fais parfois du coaching, je fais principalement du coaching professionnel, parfois personnel, mais très peu. Et quand je travaille avec des chrétiens, je dis souvent aux gens, en fait, vous amenez Dieu si vous voulez, mais en fait, mon rôle n'est pas de vous imposer Dieu. Donc, en fonction de ce que vous allez m'amener, on va l'utiliser ou pas. Et j'ai fait un processus de coaching avec une personne qui est chrétienne depuis très longtemps, qui a. Pardon, je parle. Ah, il est branché. Alors, attends. Là, ouais. Là. Et donc, je travaille avec une personne qui est chrétienne depuis longtemps. Et qui m'explique ses problématiques sur, entre autres, sur le travail. Elle est énormément prise, elle a une famille, elle a des enfants. D'ailleurs, faites-moi une parenthèse, rappelez-moi, il y a eu un commentaire tout à l'heure sur le côté charge mentale femme-homme, différence. Je veux parler de ça juste après. Mais elle m'expliquait le côté hyper compliqué qu'elle avait entre gérer son travail, gérer sa vie de famille, gérer ses propres ambitions, les demandes de l'église, etc. C'était hyper compliqué. Et la sensation, parfois d'avoir de trop plein, de se perdre dans tout ce processus et de plus savoir comment réagir par rapport à ça. Et j'écoute ça et je lui pose une question. En fait, c'est assez étonnant sa réponse, parce que je lui dis est-ce que tu t'aimes? Elle me dit j'ai quand même des choses qui sont pas mal, j'ai quelques qualités, c'est pas idéal, j'ai plein de choses à améliorer, et trucs. Et en fait, très rapidement, elle est repartie sur les défauts qu'elle avait. Et donc, je repose la question. T'as pas vraiment répondu à ma question. En fait, ma question était en l'occurrence oui, non, ce qui n'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-là, c'est de la question, c'était est-ce que tu t'aimes? C'est compliqué comme question. Ah bon? C'est oui, non, en fait, il y a deux options. Hein. C'est oui ou non, quoi. Et en fait, c'est une question qui est souvent difficile, mais qui... Et je vais me permettre de le dire probablement à certaines personnes qui sont dans la salle, je ne sais pas, mais je vais me permettre de le dire. En fait, je pense que si vous aimiez les gens comme vous vous aimez vous-même, les gens ne voudraient pas être aimés par vous. Et ce point est que dans le rôle dont on parle, et c'est en lien avec ce texte-là, vous connaissez le texte, je vous le dis rapidement, mais dans Matthieu 22, il est dit, un docteur de la loi pose une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, dans votre rôle, il y a un truc qui est intéressant, parce qu'on se dit, on est dans une rencontre chrétienne, donc on se dit que probablement vous aimez Dieu, ça va. En plus, vous êtes dans un domaine plutôt du soin, donc on va se dire que vous aimez probablement les autres, ça va. Et puis si je vous posais la question, mais est-ce que vous vous aimez? Qu'est-ce que ça donnerait? Et en fait, l'une des choses, c'est que parfois, lorsqu'il s'agit de se dire, de quoi est-ce que j'ai besoin? Comment je devrais réagir dans cette situation? L'un des moyens pour trouver d'autres solutions, c'est de se dire, qu'est-ce que je dirais si c'était ma meilleure amie ou mon meilleur ami? Si c'était quelqu'un que j'aimais profondément, qu'est-ce que je lui dirais là? Est-ce que je lui dirais, vas-y, continue de te sacrifier, c'est génial. Est-ce que je lui dirais, non, mais c'est ta vocation, du coup, le prix, t'inquiète pas, aucun souci, tout va bien. Ou est-ce que je lui dirais autre chose, justement à cause de l'inquiétude et de l'amour que j'ai pour cette personne? Et donc, il y a parfois des questions que l'on se pose, sans se poser la question du « est-ce que je le dis depuis une posture d'amour que j'ai vis-à-vis de moi-même ?» Et donc, on en revient parfois à ces postures du « ouais, mais en fait, je suis sauveur, quoi. » Donc, la question de « est-ce que je m'aime ?» On s'en tape, en fait. Il faut que je sauve. Mon identité est là-dedans. Et en fait, est-ce que c'est la juste posture ? Donc, question pour vous-même, et je ne vous demande pas d'y répondre, ça vous appartient, mais est-ce que vous vous aimez ? Et potentiellement, par rapport aux problématiques que vous êtes posées aujourd'hui, si la même question était posée à une personne que vous aimez profondément, qu'est-ce que vous lui diriez? Et est-ce que vous vous dites la même chose? Autre chose, par rapport au texte qu'on a vu tout à l'heure, donc les choses qu'on avait vues par rapport à Marie-Marthe et Jésus. On a parlé du côté, donc le fameux, la pyramide de Cartman. On avait dit aussi que il faut le faire, et donc ça, c'est le truc que j'ai fait renvoyer après. Je me rends compte que la version est transformée. Donc, Eric continue, Cartman, le côté il faut le faire, donc il faut bien que je le fasse, donc bon, je vais le faire moi, sinon personne ne va le faire, donc je suis hyper important, hyper nécessaire. On se demande comment le monde a vécu sans vous avant, et comment il va vivre sans vous après. Je le fais pour Dieu, donc ça, le bon truc qui sonne très bien à l'église, et qui se dit, ouais, l'intention de servir Dieu peut nous empêcher d'écouter Dieu, et donc vigilance, où est-ce qu'on en est exactement? Parce que juste dire la phrase du « je le fais pour Dieu », c'est parfois une bonne excuse pour ne pas se poser les vraies questions. La valeur chrétienne de l'effort et du sacrifice, pas que ça n'a pas de valeur, c'est que juste parfois on met tellement d'importance sur ça qu'on oublie d'autres éléments essentiels, et nous avons tous besoin à certains moments d'être nourris et ressourcés, et la question de comment est-ce que vous faites pour vous nourrir ou vous ressourcer. Par contre, il y a un point sur le texte qu'on n'a pas vu et sur lequel on ne s'est pas arrêté. non, je reprends le texte tel qu'on l'a lu ce matin. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreux tâches du service, elle se vint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » En fait, il y a un truc qui est intéressant, c'est que, donc, il y a les choses qu'on s'est dit avant, Marthe fait une demande avec les conséquences que ça a sur la posture qu'elle prend par rapport à Jésus, par rapport à sa sœur. Par contre, la réponse de Jésus est quand même très bizarre quand on y pense. Et donc, il dit, Marthe, Marthe, vous pouvez remplacer Marthe par votre prénom, ça marche très bien. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. En fait, c'est bizarre parce que quand on lit ce texte, on se dit, donc, où est le verset suivant? En fait, il ne lui donne pas la réponse. En fait, ce qu'il lui dit, c'est qu'il y a plein de choses que tu as dans ta tête, là, en train de réfléchir parce que tu as la capacité de plein de trucs que tu as envie de faire, les trucs. Mais en fait, il y a une chose qui est nécessaire. Débrouille-toi, cher. Par contre, Marie, elle est maligne, elle a trouvé. Et donc, il y a cet aspect du... comment est-ce que vous cherchez ce qui est essentiel et ce qui est absolument fondamental? Quelle est cette bonne chose que Dieu a pour vous? Et comment est-ce que... On en parlait tout à l'heure. Je disais, quand j'ai été formé au coaching, j'ai été très surpris. Parce que dans le coaching, on nous explique plein de méthodes, comme si on nous disait, voilà le truc qui permet de faire comprendre aux gens, de prendre conscience, etc. Et puis, je lisais, j'apprenais, je me disais, c'est pas possible, en fait. Tous les trucs qu'ils sont en train de nous enseigner sont déjà dans la Bible, quoi. Jésus fait les mêmes choses, pose des questions, amène les gens à prendre conscience, amène les gens à chercher des solutions, amène les gens à prendre des décisions, amène les gens à passer à l'action. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et puis, l'autre frustration qui est, dans l'église, on a le truc et on ne l'utilise pas, quoi. Tout est écrit, on l'a sous la main, on le lit tout le temps, et puis à un moment, comme si ça n'avait plus aucun effet. Et donc, ce qui est pour moi intéressant dans ce côté, et je refais la boucle sur la notion de charge mentale, vous vous souvenez au tout début de la réunion, on disait charge mentale, et qu'est-ce qui fait que la notion de charge mentale, c'est qu'on s'inquiète de beaucoup de choses, parce qu'on n'est pas concentré sur l'essentiel, parce qu'on est toujours stressé, enfin, plein d'éléments qui génèrent sa charge mentale. En fait, la réponse de Jésus, assez simple. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne sera pas enlevée. Et j'ai envie de finir avec cette même réflexion, et je veux volontairement ne pas vous donner de réponse, en fait. Je veux volontairement vous demander d'aller chercher, tiens, quelle est cette bonne part que Jésus vous donne, qui est la seule chose nécessaire? Quel est l'élément fondamental que vous devez garder et qui fait que toutes les autres choses qui sont qui génèrent cette surcharge mentale, qui génèrent cette sensation du « je donne trop, je suis dans le sacrifice », etc., potentiellement ne sont pas si importantes. Quelle est cette chose nécessaire qui, en soi, va répondre à ce besoin d'utilité, ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'ego, qui, en fait, répond à laquelle répond Jésus? Qu'est-ce qui fait que Marie est là, détendue, à l'écoute, et pas plus? Et j'ai principalement envie de vous lâcher avec ça, en vous disant, tiens, pour vous, qu'est-ce que vous faites pour trouver cette chose nécessaire? Et peut-être pouvoir vous encourager à vous encourager mutuellement. À se dire, tiens, quel est cet élément fondamental et nécessaire dont on a besoin? Quand vous entendez quelqu'un qui commence à vous parler de plein de trucs et que ça a l'air hyper compliqué, et certains trucs, prenons de la hauteur. Quel est l'élément essentiel et nécessaire? Qu'est-ce qui fait que Marie peut l'obtenir? Qu'est-ce qui fait que vous pouvez l'obtenir? Ça vous va? Donc si ça vous va, moi, mon rôle va s'arrêter ici. Je vais laisser plus de temps à la partie partage et prière que vous allez gérer entre vous. Juste vous dire deux, trois choses par rapport à ce que j'ai pu observer aujourd'hui. Je vais être vigilant par rapport à ce que vous allez retenir de cette journée. Ça, ça veut dire. Mon rôle n'est pas de dire, ouais, arrêtez votre boulot, en fait, une seule chose est nécessaire, donc le reste, on s'en tape, quoi. Je vais avoir l'ARS qui va m'appeler dans le truc en disant ok, tu vas arrêter tout ça, c'est bon. C'est pas ce que je veux dire. Et vous avez un rôle important et fondamental par rapport à ça. Que je veux dire, c'est de ne pas vous perdre dans cela. On est dans une société qui nous pousse à nous perdre en nous posant les mauvaises questions. Les gens se posent continuellement, et même nous en fait, légitimement, mais facilement, on se pose beaucoup de mauvaises questions, on en perd l'élément fondamental. Donc merci pour ce que vous faites. Et si vous ne percevez pas de la reconnaissance des autres, pensez que malgré tout la reconnaissance, Dieu l'a envers vous, que vous avez de la valeur déjà. Quoi que vous fassiez, en fait, vous avez une valeur importante et essentielle. L'un des problèmes de la société actuellement, c'est que quand les gens ne savent pas où trouver la reconnaissance, ils la cherchent dans les mauvais endroits. C'est le cas classique du « pour une victime, la reconnaissance du persécuteur a plus de valeur que l'indifférence ». Et c'est terrible. En fait, on a des gens qui se mettent dans des situations dramatiques à cause de ce besoin fondamental de reconnaissance. Donc, dans cet aspect de reconnaissance qui est absolument humain et logique, pouvoir vous rappeler, je ne pense pas que ce soit nécessaire, que ce n'est pas quelque chose que vous allez découvrir, mais on a parfois besoin de se rappeler, en fait, la reconnaissance, vous l'avez déjà. Des personnes ont déjà parlé de grâce. C'est-à-dire, vous avez déjà reçu le cadeau le plus grand, quoi. Et donc, ça potentiellement peut libérer de certains éléments forts et essentiels. Troisième chose, je vous ai dit, j'ai des convictions parfois un peu fortes. Je me permets de vous les dire et de les échanger. Je pense que dans l'Église actuellement, on fait du mauvais boulot par rapport à ce genre de choses. On a du mal à aller toucher certains sujets qui génèrent de la souffrance chez nous. Et j'ai envie de vous inviter à être des personnes qui cherchent à pouvoir répondre à ces souffrances-là dans votre rôle, par l'amour que vous allez avoir envers les autres. Et les choses dont on a travaillé, la manière dont vous avez pu vous écouter, pouvoir vous accompagner, vous dire probablement autour de vous, autour de nous, dans nos églises, il y a des personnes qui sont en souffrance, qui ont besoin de recevoir de l'aide, de l'amour, du conseil, de la reconnaissance d'une manière ou d'une autre. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura encouragé. Un, vous recevrez des choses, mais deux, vous aurez envie de partager avec d'autres personnes. Et puis, moi, j'ai passé un très bon moment, globalement. Donc c'était un vrai plaisir. Je vais juste rester là sur la fin, mais en tout cas, merci beaucoup.
Merci
beaucoup.
Merci. Je
oh, bien joué. Ok, ça marche. Charge mentale on time. Non, c'est vrai, j'avais dit qu'il fallait me rappeler, j'en parle. Donc, c'est intéressant, comme souvent on dit charge mentale femme, et comme souvent on a l'impression que burn-out homme. En fait, c'est assez étonnant, quoi. Et il y a une chose qui est assez étonnante, c'est que cette notion de charge mentale est perçue potentiellement de manière différente, mais en réalité, elle n'est pas absence de l'un ou juste j'ai charge mentale mais je tiens bon dans l'autre. Et donc, il y a des fausses croyances qui sont dites sur la charge mentale qui sont quand même assez inquiétantes. Donc, un, je dirais, du côté homme, parfois, on a l'impression que l'on tient beaucoup mieux la charge mentale. On se dit, c'est bon, je tiens, jusqu'à le boom. Et le boom, c'est le fameux burn-out. Et en fait, c'est cette charge mentale dont on n'a pas pris conscience suffisamment tôt qui fait qu'on n'a pas mis en place, en face, les ressources qui nous permettent de pas tomber dans ce fameux burn-out. Donc, cette charge mentale, on en parle souvent, et c'est vrai qu'on en parle souvent en termes de féminin, bizarrement, c'est, selon moi, plus un ressenti fort chez les femmes que chez les hommes, parce que les hommes, on est parfois un petit peu bêtes. Parce qu'on se dit, on a mal, mais c'est pas grave. Jusqu'à ce que ça pète. Je vous dirais de ne pas vous laisser enfermer dans des cadres un peu trop rapides, de se dire ouais, en fait, les femmes ont la charge mentale, quoi. C'est comme ça. Non, en fait, il y a une perception de l'environnement qui est parfois plus juste, plus réaliste, mais qui n'est pas l'absence d'eux en opposition. Et donc, il y a des choses qui sont dites par rapport à ça. Ça me semble hyper bizarre, quoi, d'avoir l'impression de ok, charge mentale, on va en parler. Donc femme, charge mentale spécifique. Charge mentale, je vous l'ai dit au départ, cette sensation, l'énergie que l'on dépense par rapport à des tâches que l'on a à faire. Et le fameux, et à l'inverse du coup, charge mentale en lien avec le côté multitâche. Donc on dit les femmes sont plus capables de faire des multitâches que les hommes. Je dirais, mesdames, vigilance. Parce que en prenant cette charge de se dire, tiens, en fait, je vais gérer 25 trucs à la fois parce que je suis une femme, vous vous mettez en danger toute seule. Et comme les hommes sont parfois aussi très basiques, il y a des hommes qui disent non, non, moi, deux trucs, c'est trop, quoi. Et en fait, c'est peut-être ce qu'il faut faire, quoi. Mais, en tout cas, je préfère que l'on soit réaliste dans la notion de complexité par rapport à ces sujets que de faire des résumés hyper rapides en disant femme, charge mentale, truc, parce que du coup, quand c'est hyper basique, on ne peut pas trouver des vraies solutions par rapport à ça. Donc c'est juste ça, pour vous dire, on en dit des choses, vigilance quoi. Ça va ? Ça répond ? Ok. Merci beaucoup.
Merci. Merci.
Au revoir en ligne. Pardon, j'ai oublié.
Il y a un neurophysiologiste, enfin, c'est très étudié hein, comme sujet en médecine.
Ouais.
Et c'est clairement, enfin, la vie de l'officiel, c'est écrit 5 fois la même chose du plus grand petit. On ne peut pas faire 2 choses en même temps. Et parce que, en fait, c'est tout simplement impossible. Comme il s'est expliqué ce matin, on peut faire une chose automatique et puis une autre chose qui ne demande pas trop de concentration. Mais et en vrai, avant d'entendre son topo, j'étais souvent ouais, je peux faire 2 trucs. Et puis je répondais à des mails pendant une conférence. Et je sais pas, de toute façon, ça vous est déjà arrivé. Si quelqu'un vous pose une question alors que vous étiez en train de faire un texto, tu disais quoi? Donc la preuve, on ne peut pas faire de choses. Forcément, vous déconnectez. Alors forcément, si la personne en face de vous, elle parle pas vite. Elle tourne en rond, machin, elle a divagué, donc forcément, vous avez l'impression d'avoir rien loupé. Mais là, le moment où vous êtes déconnecté, et donc du coup, maintenant, je fais vraiment très attention. Et ça, c'est important, je sais que je ne peux pas faire autre chose, et donc je fais plus de choses en même temps. Et donc, voilà, c'est une chose à la fois. Et il disait que, en fait, on peut ouvrir plusieurs dossiers en même temps. Mais on ne peut pas tous les traiter en même temps. Oui. Et c'est très marrant. Et il disait que pour passer d'un dossier à un autre, bah, il faut dépenser une énergie supplémentaire pour naviguer entre les dossiers. Donc en fait, ça demande encore plus d'énergie que d'avoir juste faire un dossier. Bah, bref, c'est juste pour appuyer ce que tu disais avec des preuves scientifiques et médicales. Et c'est vraiment super intéressant. Je te remercie beaucoup. On a plein de taf à faire. Mais le premier taf, je pense que c'est prier sur ce qu'on a entendu pour pas repartir avec encore plus de confusion que ce avec quoi on est arrivé. Et on va vraiment passer un moment, on a le temps. Si vous avez un train à prendre ou vous devez partir, n'hésitez pas à vous lever et partir discrètement. Mais on est assez nombreux, donc je propose de refaire 3 groupes comme on a fait toute la journée. On va pas faire ABC, donc vous mettez avec qui vous voulez, on reprendra les mêmes lieux par contre. On le fera par affinité, vraiment, enfin voilà, sentez-vous libre, juste essayer d'équilibrer un peu les groupes, parce qu'il y en a, il y a un groupe de 2 et puis un groupe de 50. L'idée, c'est, je vous propose de le faire en 3 temps. Le premier, c'est, voilà, ça m'a parlé, la journée m'a parlé là-dessus et j'aimerais travailler sur un point de tout ce que vous avez entendu. Un point en priorité. Et puis vous le notez comme sujet de prière pour le groupe pour qu'ensuite on puisse prier là-dessus. Donc voilà, et puis c'est aussi de la redevabilité. Je voudrais m'engager à faire mieux sur ce point-là et n'hésitez pas à vous demander des coups. Le deuxième point, c'est on va prier les uns pour les autres. Sur le plan personnel, il y a peut-être des gens qui sont en souffrance aujourd'hui là, d'être dans le sacrifice. Et Dieu, il veut guérir ça. Donc, moi personnellement, cet été, c'était vraiment une guérison énorme d'avoir trop donné au travail. Et le plus grand bien que ça m'a fait, c'est juste me rappeler combien Dieu m'aime. Et m'être replongé dans l'amour de Dieu, d'une manière, enfin, c'est juste, en fait, c'est, prenez un bain chaud. Donc voilà, si vous êtes, voilà, qu'on puisse prier pour ça et qu'on puisse prier les uns pour les autres. S'il y a des gens qui ont profité d'être en petit groupe, dites-le et du reste. Et la troisième, c'est un temps de prière pour le monde de la santé, de manière générale, en extrême souffrance. J'ai cru avec qui je discutais que le Covid a vraiment été le mot qui vient, c'est une chape d'eau, c'est pas le mot, il y a vraiment un vacuum. On a perdu énormément de soignants à cette période-là. Il y a une grosse remise en question aussi des gens devenir. Et en plus, encore plus avec l'hôpital public qui, pour le coup, souffre énormément. On manque de médecins, on manque d'infirmières, tout le monde souffre. Et comme disait Léo ce matin, continuez de souffrir, vous faites si bien. Et donc, voilà, qu'on puisse prier pour ça. On a un Dieu puissant, un Dieu qui entend, qui est juste aussi, qui voit ces souffrances-là. Et que nous, on puisse être, parce que nous, on est baignés dans l'amour de Dieu, qu'on puisse penser les plaies des autres aussi. Voilà, que si, qu'on prie aussi pour les réseaux sociaux qui nous aident à être connus, comme tu disais, qu'on puisse, on fait pas un groupe pour avoir 1000 followers, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que Jésus ait des followers. On puisse participer à ces groupes et se faire du bien. Et venir à des journées comme ça, et être restauré, être guéri, et qu'on puisse briller dans le monde. Donc je vous propose de vous séparer maintenant, et puis de prendre ce temps-là. Officiellement, on a 17 heures, on a largement le temps. C'est un... Donc on a largement le temps. Faire ça. Merci encore. On te bénit pour tout ce que tu nous as béni. Que Dieu te bénisse richement financièrement et aussi spirituellement. Continue à t'aider à fusionner, tout ton être en un seul spirituel. Nous aussi. Pour les zoomers, vous pouvez aussi prier entre vous pour les mêmes sujets, comme vous avez passé toute l'après-midi avec nous. Vous avez échangé aussi sur des sujets personnels, je pense. Sentez-vous libre aussi de vous déconnecter quand vous voulez, quand vous avez terminé. À un moment, on ferme la lumière quand même. Donc, elle reste en train. Merci d'avoir été là toute la journée. Bisous, Colette. À bientôt. Au revoir, Elisabeth. Au revoir, Edwige.